Bon, on s'arrête là, on va reprendre et on va faire un temps de questions. Il faut parler fort, hein. Si vous posez une question, il faut parler très fort. Oui, je vais être obligé aussi pour le caméra à répéter vos questions. Oui, donc la question c'est, quand on dit aime ton prochain comme toi-même, est-ce que cela veut dire qu'il faut s'aimer soi-même? Et il faut aimer sa prochaine incarnation. En fait, l'hindouisme ne dit pas aime ton prochain comme toi-même. Et surtout, il faut pas s'aimer soi-même. Le moi, c'est une illusion. L'hindouisme dit tu es toi ton prochain. Ton prochain et toi, vous êtes un. Vous comprenez la différence? C'est l'amour implique l'existence de deux personnes. Donc, la Bible dit, aime ton prochain comme toi tu aimes toi-même. Et ça, ne peut pas être l'idéal de l'hindouisme. L'hindouisme n'admet pas l'existence de deux personnes séparées. Et l'hindouisme n'admet pas non plus l'amour de soi-même. Non, il faut détruire le moi. Il faut se libérer du moi. Et non pas aimer le moi. Donc, c'est deux mondes différents, là. On n'est pas en train de se mouvoir dans le même monde, univers mental. Oui, est-ce que cela veut dire, dans l'hindouisme, est-ce que les fautes, une offense, si je comprends bien la question, est-ce que cette offense se fait entre la partie de Dieu qui est dans chacun l'offenseur et l'offensé? C'est ça. Mais en fait, l'offenseur, c'est une illusion dans l'hindouisme. Il peut pas y avoir vraiment d'offensé et d'offenseur. L'idée d'une offense est une illusion. Et ce n'est pas simplement que j'ai une partie de Dieu en moi, c'est que je suis Dieu. Il n'y a pas de différence. Dieu ne se fait pas de petites parties, de particules. Dieu est tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile pour nous sommes tellement habitués à une existence individualiste, c'est difficile pour nous de concevoir cela. Oui. La question, c'est que l'homme a deux sens innés, deux sentiments innés, le sens du sacré et le sens moral. Est-ce qu'on peut se servir de ces deux sens, de ces deux sentiments, pour, disons, créer des ponts entre les croyants et les non-croyants? Oui, je crois qu'on peut. Et il y a deux problèmes dans l'Occident, c'est que ces deux sentiments sont en train de se perdre. L'homme moderne ne sait pas du tout ce que ça veut dire, le sacré. Il sait plus. Moi, je ne sais pas comment restaurer ce sentiment. Rien n'est sacré pour nous. Et le sens moral est tellement subjectif aujourd'hui, et tellement relativiste, c'est là aussi c'est difficile. Mais ce que tu dis est quand même vrai, parce que ce sont des êtres humains. Et ces sens existent en nous, même si intellectuellement, nous les renions, sont toujours là. Et je crois qu'il y a des choses on peut parler au cœur des gens, comme ça. La plupart des gens avec qui on parle ont hérité ces croyances. Vous savez? Ils ont hérité. Ils n'ont pas réfléchi eux-mêmes. Ils ont reçu assez passivement ce qu'ils apprennent dans les médias, dans la culture, dans l'éducation, etc. Ils n'ont pas vraiment réfléchi. Là où, dans mon expérience, où on peut créer des ponts sur ce point, c'est d'aider les gens à réfléchir. Ils n'ont pas l'habitude. Non, mais ils n'ont pas l'habitude à réfléchir sur la vie. Ils vivent, ils suivent des itinéraires tout tracés, se demandent pas pourquoi ils font ceci ou cela. Et souvent, c'est au niveau existentiel, c'est au niveau personnel qu'on va les lancer sur la piste de la réflexion. C'est peut-être inutile de leur parler du sens du sacré. Ouais, c'est difficile. C'est difficile aussi parce que même dans l'Église, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être influencés par la pensée autour de nous. C'est difficile de garder le sens du sacré même dans l'Église. Tu as Prisca est en train d'enseigner le sens du sacré aux tout petits, 2 ans, 2-3 ans. Vous savez comment? Si ce n'est pas à toi, tu n'y touches pas. Vous allez à Marseille, vous demandez aux tout petits qui savent à peine parler, si ce n'est pas à toi, tu ne touches pas. C'est quoi le sacré? Tu ne touches pas. Une chose est sacrée. Tu n'as pas le droit de toucher. Bon, c'est la définition basique, hein? Mais on construit sur cela. Chez les adultes, comment restaurer le sens du sacré? Je me gratte la tête. Si vous savez, dites-le moi. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui dit que toutes les croyances se valent? C'est ça? Elles sont construites. Ce sont des constructions sociales. D'abord, cette croyance est une construction sociale. Ça, c'est la grande erreur que nous rencontrons tout le temps. Les gens ne s'appliquent pas à eux-mêmes ce qu'ils appliquent aux autres. Toute vérité est subjective, sauf celle que je viens de dire. Il n'y a pas de vérité absolue, sauf celle que je viens de dire. Ils n'appliquent pas à eux-mêmes ce qu'ils appliquent aux autres. Mais la réponse est là, on vit là, on vit dans cette maison. Écoutez, un des boulots les plus difficiles, à mon avis, dans l'Occident aujourd'hui, est de faire sortir les chrétiens de cette maison. Tant qu'on reste dans cette maison, notre foi sera fragile. Parce que notre foi sera subjective, privée, une simple opinion. Donc on peut zapper comme on veut, n'est-ce pas? Dans le domaine des goûts et des opinions, et de subjectif, on zappe. Il n'y a pas de vrai. Donc il faut sortir de ça. C'est une création. Ça c'est pour Constance. Ça c'est une construction sociale. Et je vous recommande aussi le dérèglement moral de l'Occident. Il parle beaucoup de cela. Beaucoup. Donc je veux voir. C'est une chose, c'est d'aider la personne, lui montrer qu'il ne s'applique pas à lui-même ce qu'il applique aux autres. C'est déjà, ça doit le faire réfléchir. Moi, j'ai pas vu, oui. Quel rôle est-ce que l'idolâtrie joue dans l'hindouisme et le bouddhisme? Beaucoup plus dans l'hindouisme que le bouddhisme. En fait, le Bouddha, il serait sans doute horrifié de voir les statues du Bouddha. Il dit non, je suis pas un dieu, il faut pas m'adorer, je suis un sage. Mais, quelques-uns de ses disciples ont fait de lui presque un dieu. Ben, c'était contre la volonté de Bouddha. Par contre, dans l'hindouisme, comme dit, il y a des couches différentes. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui ont été à la Réunion, Madagascar et d'autres, et on a visité des temples hindous. Là, on voit, disons, la version populaire de l'hindouisme. Ah, c'est très présent. Ah oui, c'est la partie qu'on voit. On voit pas le sage qui médite tout seul. Il n'est pas visible. Tu vois, disons la partie, ce que C.S. Lewis appelait la partie, il dit les religions sont épaisses ou légères comme les soupes. Et que l'hindouisme était à la fois une religion épaisse, il y a des mystères, il y a des dieux différents, et clair, c'est très philosophique, c'est très éthique. Il dit l'hindouisme, c'est 2 religions en une seule. Et il dit que le christianisme est à la fois épais et clair pour tout le monde. Alors que l'hindouisme, c'est épais pour la masse est clair pour l'élite. Alors que le christianisme, c'est Dieu. C'est à la fois, il y a des mystères profonds et c'est aussi raisonnable philosophique.
Et par exemple, dans l'hindouisme, pour l'idole, est-ce que l'idole, c'est le Dieu même ou c'est...
C'est une représentation, sans doute une représentation. Même si c'est dans le temple qu'on a visité à la Réunion, on amenait les plateaux de nourriture. Mais bien sûr, l'idole n'a pas mangé cette nourriture. Je ne sais pas. Ça, c'est la même question avec les idoles grecques. Est-ce que c'était les dieux ou c'est simplement des représentations des dieux? J'ai pas rencontré beaucoup d'idolâtrie dans le bouddhisme, chez les bouddhistes. Bouddha, c'est la seule statue que j'ai jamais vue. Dans l'hindouisme et le bouddhisme, est-ce que le mal et le bien n'existent pas? Non, ils n'existent pas. Il y a aucun critère objectif pour distinguer, justement, la morale, c'est une distinction. On fait la distinction, on définit ce qui est bien, on définit ce qui est mal. Mais il n'y a pas de distinction. Tout est Dieu. Et Dieu est tout. Il y a une pratique. Ce qu'on dit, on pourrait dire une pratique morale dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Mais c'est pour purifier l'âme de désir. C'est pas le bien, c'est pas une question de bien faire ou de mal faire. C'est une question de discipline spirituelle. Vous comprenez cette, c'est pas une question morale. C'est une question de discipline, de technique spirituelle. On fait le bien parce que ça nous fait avancer vers, ou ça nous fait nous éloigner de l'égoïsme. Ça se passe ici. Donc, la question, si on fait du bien ou du mal à un bouddhiste, n'est-il pas capable de ressentir cela, qu'on lui a fait du bien ou du mal? Bien sûr, c'est un être humain. C'est un être humain. Écoutez, voici ma formule. Plus on devient chrétien, plus on devient humain. Et plus on s'écarte de la vérité de Dieu, moins on devient humain. Ces gens sont humains, quelles que soient leurs idées. Leurs idées peuvent être complètement en contradiction avec la réalité. Mais eux, ils doivent quand même vivre. Bien sûr, je crois qu'un bouddhiste, il sait et il apprécie quand on lui fait du bien. Et il sait quand on lui fait du mal. Quoi qu'en dise sa philosophie. Vous comprenez? Ça, c'est notre atout. C'est que les gens sont des êtres humains. Ils vivent dans un monde créé par Dieu. Ils ne peuvent pas s'empêcher de vouloir vivre dans la réalité. C'est la meilleure chose qui soit, c'est de vivre dans la réalité. La réalité est définie par Genèse 1:1. Et la suite. Non, je veux dire chapitre 1. Il y a tellement de choses. Nous sommes créés à l'image de Dieu, etc. Ça, c'est la réalité. Les gens vivent dans la réalité, même si leur idéologie contredit la réalité. Je vais parler de cela demain. On va apprendre comment être réaliste dans un monde qui nie la réalité. Oui, la question, c'est, la réponse n'est-elle pas de leur dire que Dieu les aime? Bien sûr, c'est ça la réponse. Ça ne veut pas dire qu'ils vont comprendre. Parce que ça n'a pas de place dans leur idéologie. Mais ça a une place dans leur vie. N'est-ce pas? Les gens qui ont été aidés, ces gens mourants, qui ont été aidés par une mère Teresa, même si c'était des hindous pratiquants, ils ont su ce que c'était l'amour. Parce qu'ils l'ont reçu. Ils ont vu. Et l'être humain en eux va répondre à ça. Ben oui, c'est ça. C'est exactement la réponse. Oui, bon, la question c'est, puisque vraiment l'idée d'aimer Dieu n'est pas une idée coranique, est-ce que l'amour du prochain est enseigné dans le Coran? Dans le sens qu'il faut pratiquer la justice, je crois que oui. L'apôtre Paul dit que l'amour ne commet pas d'adultère, tous ces commandements sont résumés dans le commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Bon, il y a des différences parfois de l'amour entre le christianisme et l'islam. Ça, c'est vrai. Il y a des choses qui sont permises dans l'islam. Par exemple, avoir 4 femmes, la façon de traiter les esclaves et d'autres qui ne sont pas permises dans le christianisme. Mais à la base, ce que le musulman doit faire, surtout envers un autre musulman, c'est d'aimer ton prochain. C'est ce que pensaient les juifs du temps de Jésus. Aime ton prochain, ça veut dire aime ton frère juif. Et il faut haïr l'ennemi, c'est-à-dire le non-juif. Et Jésus dit non, c'est pas ça. Mais je crois qu'ils comprennent ça. Mais c'est l'idée d'amour, c'est, il y a trop de proximité avec Dieu. Dieu est vraiment séparé. Oui, la question est que dans certains mouvements chrétiens, il y a un retour à l'idée de théocratie. C'est une mauvaise idée. Une mauvaise idée. Jésus a dit à Pierre, range ton flingue. Et il ne faut pas que les chrétiens leur ressortent cette épée. Écoutez, nous les chrétiens, nous pouvons comprendre quelque chose. À quoi ça sert d'imposer par la force une pratique religieuse? Dieu, pardonnez-moi l'expression, s'en fiche royalement. Ce qu'il veut, c'est le cœur. Ce qu'il veut, c'est nous. Dieu n'a pas besoin de notre obéissance, simplement comme un acte extérieur. Il veut une obéissance, mais qui vient du cœur. C'est quoi le commandement? Aime ton Dieu de tout ton être, toute ta pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous. Dieu pourrait créer des robots qui viennent à l'église et qui chantent et qui prennent le repas du Seigneur. C'est bien de faire ces choses. Mais ce que Dieu veut, c'est nous. C'est la personne qui fait ces choses. C'est pas simplement les actes. Et c'est ça. Une théocratie n'accomplit pas cela. C'est à débattre pour savoir si le christianisme a été théocratique au Moyen-Âge dans certaines parties du monde. Peut-être il a frisé la théocratie, mais ça ne lui a pas réussi du tout. N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les Européens sont si anti-chrétiens? Une des raisons, c'est que l'Église a pris trop de pouvoir et a essayé d'imposer ce qui ne peut pas être imposé. Et il faut faire attention. La théocratie, c'est pas l'idéal chrétien. Pas du tout. Ça, c'est important à comprendre aujourd'hui. Là, c'est de bonnes questions. Franchement, les questions-réponses, c'est la meilleure partie.